Capítulo 5. Magia gris. Quand nous sommes arrivés à Madrid, il faisait déjà nuit. Pendant tout le trajet de l'aéroport au centre, j'ai collé mon visage à la vitre du taxi, impatiente de connaître la ville qui hantait mes rêves. J'ai découvert une métropole moderne, au trafic dense, regorgeant de bars et de toutes sortes d'enseignes lumineuses. Il était presque medianoche, minuit, mais les rues étaient noires de monde. En verano, los españoles vivimos de noche, como los vampiros, a plaisanté Rémy. L'été était donc la saison des vampires en Espagne. Je me suis rappelé le V de mes cauchemars. V comme vampiro. J'ai senti un frisson dans mon dos malgré la chaleur nocturne. Une demi-heure plus tard, Milagros, la fille de Rémy, nous a ouvert la porte de son grand appartement situé dans l'un des beaux quartiers de la capitale. « Por favor, llámame Mila », m'a-t-elle dit après m'avoir fait la bise avec un sourire aussi charmeur que celui de sa mère. Le sourire et le diminutif n'étaient pas le seul point commun entre mère et fille. Mila avait aussi hérité des dons magiques. Cependant, alors que Rémy avait toujours réservé son talent surnaturel à ses amis et ses proches, Mila en avait fait sa profession. Elle m'a expliqué en quelques mots qu'elle présentait une émission à la télé qui s'appelait « Magia Gris ».« Conozco la magia negra y la magia blanca, no la magia gris », dije. C'était la première phrase un peu élaborée que je prononçais en espagnol depuis mon arrivée. « Hablas muy bien español », m'a flatté Mila. « La magia gris es un tipo de magia intermedia que se sitúa entre lo bueno y lo malo. » J'étais fière d'avoir été comprise. Elle m'a alors expliqué en quoi consistait cette magie intermédiaire entre le bien et le mal, avec l'aisance de qui a répété des milliers de fois le même discours. Elle m'a ensuite montré un grand mur rempli de photos dédicacées sur lesquelles elle apparaissait en compagnie de célébrités dont elle m'a énuméré fièrement les noms. La duquesa de Alba, Isabel Pantoja, Santiago Segura. Je me suis bien gardée de lui avouer que ni leur nom ni leur visage ne me disaient rien. C'était, je suppose, comme si je lui avais parlé de Nabila ou de Johnny Hallyday. « Me encantaría ayudarte a ti también, Eva. Mi madre me ha hablado de tu caso. » Ayudar. C'était un verbe que j'avais souvent entendu dans la bouche de Rémy. Si je comprenais bien, Mila aurait aimé m'aider elle aussi. La magie grise serait-elle plus puissante que les pierres ésotériques de Rémy? En tout cas, elle devait coûter beaucoup plus cher, à en juger par les meubles design qui m'entouraient. Ahora debéis de estar baldadas, a-t-elle repris. Si tenéis hambre, hay cosas de picar en la nevera. Me encantaría pegar la hebra con vosotras en la terracita, pero mañana me espera un madrugón de aquí te espero. Grâce à el hambre, la faim, j'ai deviné le sens de cosas de picar, des choses à grignoter, et de la nevera, le frigidaire. Mais estar baldada, pegar la hebra et madrugón de aquí te espero ne m'évoquaient rien. J'ai pourtant compris l'essentiel. À la différence de sa mère, toujours cool et disponible, Mila était débordée et n'avait pas de temps à nous accorder. Depuis qu'on était rentré dans l'appartement, Rémy demeurait étrangement silencieuse. J'ai deviné que la relation entre elle et sa fille ne devait pas toujours être simple. « Y Pelayo? ¿Dónde se ha metido Pelayo ?» s'est exclamé tout d'un coup Mila sur le ton de quelqu'un qui vient de se rendre compte qu'il a égaré son sac à main. À sa façon de chercher du regard autour d'elle, j'ai deviné que Mila se demandait où son fils était passé. Elle a immédiatement disparu dans un couloir. Rémy m'a adressé un regard de complicité. « Mi hija es así, un poquito acelerada. » Accélérée. En français, on n'utilisait pas ce mot pour qualifier une personne, mais il décrivait à la perfection l'hyperactivité de Mila. On a entendu des cris au fond du couloir. Quelques instants après, la fille de Rémy est revenue, accompagnée d'un garçon de mon âge. C'était son fils, Pelayo. Il était plutôt mignon, Même s'il essayait désespérément de le cacher, avec ses cheveux mal coiffés, lui tombant sur les yeux, et des vêtements noirs délavés qui n'étaient pas à sa taille. Il a fait la bise à Rémé sans aucun enthousiasme et m'a adressé un « Hola !» qui ressemblait à un grognement. Il y a eu ensuite un silence plutôt gênant. « Yo también estoy baldada », dijo Rémé. « Estar baldada » devait donc dire quelque chose comme « être épuisé ».« Buenas noches. Nos vemos mañana. » Rémé s'est retiré. Mila a ordonné à Pelayo de me montrer ma chambre. « Mi habitación !» corrigió Pelayo. Mila l'a foudroyé du regard. « Tu habitación, sí, que va a ser la de Eva durante unos días. » J'ai cru comprendre la raison de la mauvaise humeur de Pelayo. Sa mère l'avait obligé à me céder sa chambre pendant toute la durée de ma visite. Je me suis sentie coupable. En fin de compte, j'étais une pièce rapportée qui ne faisait pas partie de la famille. J'aurais voulu le remercier, mais je n'arrivais pas à me rappeler le verbe « laisser ».« Gracias por darme tu habitación », dije finalmente, en utilisant le verbe « dar »,« donner ». Dale las gracias a mi madre, a-t-il répondu d'un ton plutôt désagréable. Juste avant d'ouvrir la porte de sa chambre, il s'est tourné vers moi et a ébauché un sourire qui se voulait inquiétant.
Espero que te gusten las películas de miedo,
a-t-il ajouté. Les films de peur, d'horreur? Je n'en avais pas beaucoup vu, à vrai dire. Mes cauchemars me suffisaient largement.
Me gusta Harry Potter, répondit.
Pelayo a eu un rire méprisant. « Harry Potter, es para los bebés. » Entramos en su habitación. Elle était immense et l'énorme hauteur sous plafond de l'appartement la rendait encore plus imposante. Le mur en face du lit était tapissé d'affiches de films du type « Holocausto caníbal »,« Muñeco diabólico »,« El exorcista ». Au cas où les titres n'auraient pas été suffisamment explicites, on y voyait du sang à profusion. Pelayo m'a regardé, triomphant. Sans doute s'attendait-il à ce que je me mette à trembler comme une feuille.
« La magia grise de mi madre es una mariconada. »«
Una qué ?»«
Perdona, es una palabra que una niña educada como tú no debe conocer. »
Dans sa bouche, le mot « éduqué » devenait presque une insulte.
« A mí, lo que me mola es la magia negra. »
À son ton, j'ai deviné que « una mariconada » devait être un mot vulgaire équivalent à « de la foutaise » ou quelque chose de pire, et « me mola » une expression du type « me branche ». Le pauvre voulait tellement m'impressionner qu'il en devenait pathétique. Aurait-il eu le courage, comme moi, de mentir à ses parents pour se confronter à l'origine de ses cauchemars? Je me suis détournée de ces affiches d'enfants gâtés frics et je me suis approchée de la fenêtre dans l'espoir de découvrir une vue de Madrid. On ne distinguait que les fenêtres fermées de l'appartement du vieil immeuble d'en face.
« En ese piso de enfrente vivió el doctor Velasco », dijo Pelayo.
« ¿Quién ?»
Un médico muy famoso del siglo XIX, uno de los primeros que trabajó con cadáveres en España. ¿Entiendes cuando te hablo, verdad?
Son commentaire m'a vexé. Ce n'était pas parce que j'étais étrangère que j'étais débile. Un médecin du XIXe siècle qui travaillait sur des cadavres avait habité l'appartement d'en face. Il n'y avait rien de très compliqué là-dedans.
Su mujer cayó enferma. Arrogante como era, Velasco quiso curarla él solo. Se equivocó con el tratamiento, su mujer murió. Velasco se volvió loco de dolor.
Enferma, encore un faux ami. La femme du docteur n'avait pas été enfermée, quoiqu'on pouvait s'attendre à tout de la part d'un mari pareil. Elle était tombée malade. L'espagnol était rempli de termes équivoques, et du coup, c'était facile de se tromper, comme Velasco s'était trompé de traitement. Un médecin arrogant qui tue sa femme en essayant de la guérir et devient fou de douleur. Il fallait reconnaître que cela devenait intéressant.
Se puso a confundir a su hija Conchita con su mujer muerta, quiso vestirla con el vestido de novia que su mujer había llevado el día de la boda. Conchita se suicidó tirándose por esa ventana de ahí.
Là, ça se compliquait un peu, mais je mettais un point d'honneur à ne pas demander d'explication à Pelayo.
Remé nous avait expliqué les mots novia, mariée, et boda, mariage, lorsqu'elle nous avait parlé de son défunt mari avec lequel elle communiquait tous les premiers dimanches du mois. Quant à tirarse, je ne connaissais pas le mot, mais il n'y avait pas mille façons de se suicider depuis une fenêtre. J'ai imaginé la pauvre Conchita sautant dans le vide pour essayer d'échapper à la folie de son père, qui la prenait pour sa mère morte. J'ai fait de mon mieux pour rester imperturbable. Je ne voulais pas que Pelayo s'aperçoive du tremblement qui venait de me parcourir.
Velasco, víctima de la locura, momificó el cadáver de su hija, la vistió con el vestido de bodas y siguió hablándole como si fuera su difunta mujer.
Il fallait être vraiment détraqué pour momifier sa fille et l'habiller avec la robe de mariée de sa femme morte. En cours de littérature, on m'avait parlé de Don Quichotte. Peut-être que les Espagnols étaient spécialistes des histoires de folie.
Desde entonces, muchos han visto su fantasma detrás de esas ventanas. Te aconsejo que no mires hacia allí de noche. Que tengas felices sueños.
Après m'avoir mise en garde contre le fantôme du docteur Velasco et souhaité ironiquement de beaux rêves, Pelayo a quitté la chambre. Moi, je suis restée à côté de la fenêtre. Ce gamin prétentieux ne devait surtout pas croire que j'avais peur de ces légendes à dormir debout.